y a personne qui va te donner de la sympathie. OK? Ça, c'est comme tu viens de dire, si tu n'es pas content de faire ce que tu fais, fais d'autres choses.
Ouais.
Et puis, avec le salaire que tu as, je regrette, mais ça peut compenser pour la peine que tu peux avoir de te faire crier des noms. Un, il écrit son texte là, aujourd'hui, puis le titre de son texte, c'est 125 cerveaux.
Ça t'a marqué, ça?
Moi, là, tu commences une lettre, là, puis tu veux démontrer aux gens là, que tu fais une bonne job, puis que dans le fond, là, c'est pas correct de te faire traiter de plante verte, puis tu commences en disant 125 cerveaux. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale, donc ils se considèrent un des 125 cerveaux.
Mm-hmm.
Il aurait pu dire 125 députés, 125 élus, il aurait pu choisir n'importe quelle affaire. Non, là, il commence en nous disant « on est des cerveaux ». Bon, premièrement, là, pour l'humilité, on va repasser, OK?
OK, tu l'as pris comme ça, toi.
Non, moi, là, je regrette, là, mais qu'est-ce que ça dit, toi, 125? Ben, pour moi, ça veut rien dire.
Moi, ce que ça me disait, là, ce matin, ma perception, j'étais dans mon lit, puis je lisais ça, puis je riais de ça, là, c'est qu'il voulait dire aux citoyens que c'est 125 personnes qui pensent indépendamment, puis qui sont capables de donner leur avis à leur équipe, alors que c'est totalement faux.
Ben moi, je ne l'ai pas pris de main, parce que là, c'est comme s'ils me disaient, eux autres, ils ont des cerveaux, puis nous autres, on n'en a pas.
OK, je comprends.
OK, c'est quoi, là? Pourquoi vous avez des cerveaux et les autres n'en ont pas? Les citoyens, c'est des caves? C'est quoi? On comprend pas, autrement dit. Vous autres, vous comprenez, mais nous autres, on comprend pas. Alors là, c'est son titre. Fait que ça part bien mal, là, en partant. Là. Moi, je lis ça, puis je file déjà pas bien. Là. Et puis là, ça commence, puis là, je vais le citer, parce que je voudrais pas là, dire n'importe quoi. Et là, son texte commence ainsi. Il dit « Le rôle de député s'exprime d'abord localement. Dans Beau-Sud, j'ai réalisé de nombreux projets pour ma population. » Alors, il a réalisé, lui, là. C'est lui qui a fait ça. Là. Comme Hercule, là, il a pris ses claques, mm-hmm. ses claques. Là, puis bon. Alors, j'ai réalisé de nombreux projets pour ma population, à lui, sa population, notamment en infrastructure, en éducation, en loisirs et en santé. Rien que ça.
En infrastructure? Es-tu ingénieur?
Ben, il a construit des ponts.
Ah, ben oui!
Il a des édifices, et puis il a fait ça tout seul, là, une fin de semaine, là, en deux bouchées de sandwich. Ensuite, il dit, j'attache les ficelles pour appuyer le développement de mes 24 municipalités, c'est 24 à lui, hein, sont, mes 24 municipalités, particulièrement en milieu rural. Écoute, là, tu veux dire aux gens, respectez-nous, on n'est pas juste des plantes vertes, on fait un bon travail.
Ouais.
Et puis là, tu commences en disant, nous les cerveaux, moi j'ai réalisé mes affaires, mes patents. Lui, premièrement, là, son équipe, il dit rien, là. Ses attachés politiques, puis le monde qui sont dans le bureau de comté, ça, ils comptent pas en partant. Mais il n'a rien fait de tout ça, lui-là, là. Moi, j'ai été attaché politique à Montmagny, Lillet, dans l'ancien comté de Montmagny-Lillet. Nous autres, on avait 26 municipalités. On n'est jamais sorti publiquement pour dire « arrêtez de nous insulter, on fait une bonne job ». Non, on faisait le mieux qu'on pouvait. Puis c'était à la population de décider aux prochaines élections si on était bon ou on n'était pas bon. Alors là, quand tu veux sortir publiquement et dire à la population « respectez-moi », tu ne commences pas à souffler dans ta propre trompette. Dire, hey, je suis bon, je suis fin, puis je suis un humain, puis je comprends pas cette stratégie-là.
J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, là, avec les diverses générations qu'on a, il y en a qui sont un petit peu plus petites fleurs.
Ben là, il est fait en papier.
Puis, tu sais, quand t'es député, il faut que tu sois capable d'en prendre.
Mais voyons donc, je veux dire, dans le meilleur des mondes, là, pas dans le meilleur des mondes, mais admettons, il gagne ses élections à 51%. T'es pas député de 51% qui ont voté pour toi, t'es député des 100%.
Oui. Exact.
Les 49 autres qui t'aiment pas à face, là, puis qui ont voté pour d'autres, il faut que tu les représentes aussi.
Mm-hmm.
Puis quand ils viennent dans ton bureau, là, puis ils viennent de reculons parce qu'ils ont besoin de, je sais pas, ils ont besoin d'une information, peu importe, tu peux pas commencer à choisir. Non, tu représentes tout le monde. Puis la meilleure façon de démontrer à la population que vous faites un bon travail,
c'est de faire vos jobs.
Faites votre travail.
Mm.
Respectez les électeurs. Écoutez les électeurs, vous êtes des représentants. Le principe de base là, de la démocratie représentative, là, c'est qu'on ne peut pas être les 8 millions, il n'y a pas 8 millions d'électeurs, mais on va dire que sur la liste électorale, il y a 4,6 millions, à peu près 4,7. Là.
Ouais.
C'est qu'on ne peut pas être les 4,7 à l'Assemblée nationale pour décider de chacune des lois, puis lever la main pour oui puis pour non. Pour que ce soit techniquement possible, on dit on va regrouper des secteurs dans la province, puis on va dire on va mettre un élu par à peu près entre 35 000 et 50 000 électeurs. Puis ces gens-là vont aller physiquement s'asseoir dans Baptiste là-bas, puis ils vont voter des lois, ils vont changer des lois. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pas nos boss. C'est pas le du monde qui font pitié, puis sont bien payés, sont bien traités. S'ils n'aiment pas ça, comme on a dit tantôt, ben change. Alors là, 125 cerveaux, j'ai réalisé, j'ai fait. Non, moi, j'embarque pas du tout là-dedans. Et puis, pour faire la différence, lui, il est au pouvoir. Fait que lui, il est député en étant au pouvoir. Moi, quand j'étais attaché aux politiques, j'étais attaché de Claude Roy, on le salue, mais on était dans l'opposition avec l'ADQ. Fait que la job est un peu différente. Mais il est dans un coin rural, 24 municipalités. Nous autres, c'était 26. Le comté de Montmagny-Lé est grand comme la France. je fais des farces, là, mais écoute, partir de. partir, pour ceux qui connaissent la place, là, partir de Berthier et aller à Sainte-Perpétue, là, ça ne prend pas 15 minutes. Là.
Ouais.
Alors, nous autres aussi, puis Claude, là, écoute, là, avec l'aide là, de Pauline et France, si, écoute, je les salue, on était trois dans le bureau. On faisait les horaires à Claude et la fin de semaine, Claude allait dîner. Il déjeunait le samedi à une municipalité, il dînait dans un autre, il soupait dans un autre, puis le dimanche, c'était la même affaire. Fait que dans une fin de semaine, il mangeait à 6 places différentes. Puis des fois plus, parce que des fois, les soirées, il y avait deux affaires. Claude, il aimait le monde, puis il aimait ça être dans le monde. Fait que il était tout le temps. C'est ça le job des députés. Mm. C'est d'aller voir le monde.
C'est un don de soi. Là. C'est pas une job 40 heures semaine. Là. C'est un don de soi que tu fais pendant 4 ans. Puis, tu sais quoi? Il y aurait peut-être moins de mécontents. Puis, tu sais, j'exclus la pandémie parce que la pandémie nous a maganés en sacrament. Là.
Ouais.
Tu sais, au niveau psychologique, là, des fois, il fallait se surveiller parce qu'on était sur le point de péter des coches.
Ben oui,
là.
Ça a été tough.
Mais, tu sais, tu regardes nos infrastructures, tu regardes nos écoles, tu regardes notre système de santé, tu regardes ce à quoi touche le gouvernement depuis des décennies. Puis on a injecté des milliards et des milliards, puis tu la vois pas, cet argent-là.
Non.
Mais tu dis, ben voyons donc, moi je paye, on m'enlève 50 % de ma paye, on donne ça au Canada puis au Québec. On a un bon panier de services, oui, mais concrètement, sur les choses qui me touchent moi, c'est le bordel partout.
T'en as pas pour ton argent.
Tu sais, puis j'ai pas le Saint-Pierre Plamondon, tu sais, je l'aime bien, je trouve qu'il a de l'air d'un gars super sympathique, je trouve pas qu'il a l'étoffe d'un chef, mais qu'il me parle de souveraineté. Écoute, je suis pas quelqu'un de violent, là, mais dans ma tête, là, je m'imagine, il donne une petite claque en arrière de la tête en disant, t'es un peu là, la souveraineté actuellement, là, regarde l'état des choses, là, puis la souveraineté actuellement, ça devrait même pas faire partie de ton vocabulaire.
Là, en 2023, là, on est en train de se noyer, puis là, PSPP arrive avec la souveraineté, c'est comme si on est en train de se noyer, puis disait, c'est quoi la couleur du costume de bain.
C'est une slotch.
On va choisir la couleur du costume de bain pendant qu'on se noie. Et c'est ça, en fin de compte, qu'il nous dit.
Carrément.
Complètement déconnecté,
Johnny. Il y aurait peut-être moins de mécontents si ces gens-là, comme tu l'as dit puis comme je l'ai dit, faisaient leur job. Quand moi, j'ai l'impression que le député de ma région est écouté par le premier ministre, je vais être très satisfait de mon député de région. Et s'il n'est pas écouté, si mon député de la région arrive et dit « Savez-vous quoi? J'en ai parlé avec François Legault, il ne vous le dira pas publiquement, mais moi, je l'ai demandé puis il ne veut pas nous le donner. » Hey, tu sais quoi? Le respect que je vais avoir pour ce député-là, tu n'as pas idée à quel point. J'ai dit, OK, cet homme-là, dans sa tête, est libre.
Ça, là, tu m'amènes sur le sujet que... écoute, là, on lit ça surtout avec la lettre là, que Mme Foster a sortie, comme quoi que les backbenchers ne peuvent pas parler. C'est pas qu'ils peuvent pas parler. C'est qu'ils veulent pas parler. Il n'y a pas un député à l'Assemblée nationale qui n'a pas le droit de se lever debout et de dire qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut à n'importe quel temps. Mais ils font pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'être exclus du caucus. Ils ont peur de perdre le... Ils peuvent pas perdre le job de député. Te rappelles-tu de Tony Tomassi?
Ouais.
Qui était
ministre
dans
des garderies.
Oui, c'est ça, qui était dans une enquête là, parce qu'il y aurait eu des.
Ministre de la famille.
C'est ça, au niveau des garderies, là, il y aurait eu des passe-passe.
Tony Tomassi.
Écoute bien, Tony Tomassi, là, il était presque 2 ans à ne pas se présenter à l'Assemblée nationale.
T'es payé pareil.
T'es payé pareil, full prix. Pour être clairé, l'Assemblée nationale, ça prend des affaires très graves, accusé au criminel ou une affaire épouvantable. On est rendu au 5e blâme là, à l'éthique avec Fitzgibbon, puis il est en place, pas de problème. Tu peux te lever debout à l'Assemblée, même si tu es dans la CAQ, là, puis tu te lèves debout puis tu dis « Legault, ça marche pas, puis tu perdras pas ta job. » Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire « Là, tu sors du caucus, tu t'en vas indépendant ou tu changes de parti. » Mais tu vas garder ton salaire pareil.
Mm.
Puis là, ben, quand là, tu veux... tu es redevable à qui? Tu es redevable aux électeurs de ton comté, pas à la province au complet.
Exact.
S'il y a 50 000 électeurs dans ton comté, quoi ce que tu fais? C'est quoi en français dans l'expression? Moi, je parle de ça souvent parce que je trouve que c'est une affaire qu'on fait pas et qu'on devrait faire au Québec, un « town hall ». Un town hall, c'est fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, c'est fait aux États-Unis, c'est fait en Grande-Bretagne. Un town hall, c'est que c'est un élu qui dit, moi, là, à telle heure, telle place, j'ai une salle de réservée, je m'assieds en avant, là, il y a des bains puis du café, venez me poser des questions pendant 1 heure, 2 heures de temps. Tu fais ça une fois par mois, puis tu fais le tour de ton comté. Si tu as 26 municipalités, tu fais le tour des 26, je ne dis pas une fois par mois, mais tu sais, tu alternes. Mais tu te présentes devant le monde, puis tu attends qu'ils viennent. S'il y a un soir qu'il n'y a personne, il n'y a personne. S'il y a un soir qu'il y a 3 personnes, il y a 3 personnes. Mais les gens, ils ne vont pas de façon naturelle dans les bureaux de députés pour aller confronter un député. Premièrement, il faut que tu aies du temps, parce que le bureau de député, il est ouvert ses heures normales. Tu ne peux pas le présenter le soir, à moins d'avoir un rendez-vous spécial avec le député. Fait que, si tu veux là, démontrer aux gens que tu es ouvert et que tu les respectes, là, fais des town halls. Dis, là, moi, j'ai une salle, là, à telle place à côté là, du Duncan, ou pas du Duncan, mais du Tim Hortons, puis venez me poser des questions. N'importe quoi. puis tu fais ça de façon régulière pendant tout ton mandat. Puis là, les gens vont avoir l'impression que tu les écoutes. Là, là, quand tu te plains là, que tes fins de semaine sont prises là, parce que tu vas manger là, dans des. Tu vas manger avec les personnes âgées là, dans les FADOC et ces affaires-là, là, tu ne me pourras pas broyer, c'est bien de valeur, là, mais c'est ça.
Okay. Mais tu sais, on en a parlé souvent, toi et moi, puis dans notre ancienne vie radio aussi. Ouais. Le fameux recall, là, c'est-à-dire que le député de ta région t'a promis des affaires. Il met pas ça en place. Après 2 ans, c'est merci, bonsoir, on retourne en élection. Faudrait le faire. Ça prendrait ça. Comme ça, ça forcerait ces personnes-là qui sont derrière banc à rendre des comptes à leur comté à eux.
Écoute, si tu veux qu'on fasse 2 minutes là-dessus, là, je te dirais, à la base, sur papier, là, c'est une bonne idée.
Ouais, deux minutes avec toi, c'est impossible.
Ouais, c'est vrai. Écoute, sur papier, cette affaire-là, c'est une bonne chose. Aux États-Unis, le recall, ça existe. C'est comme ça que Schwarzenegger a réussi à rentrer comme gouverneur en Californie. Exact. Okay? Ils ont rappelé l'autre, il faisait pas sa job, puis il a passé. Mais des recalls là, aux États-Unis, probablement, c'est pas tous les États qu'ils ont. Je pense que c'est juste 32 États sur 50 qui ont le recall.
Mais quand même, c'est 60%.
Ben, et puis chaque État n'a pas exactement les mêmes règles d'un État à l'autre pour rappeler une personne, rappeler un élu. Et puis le nombre de recalls qui réussissent n'est pas élevé. Parce que ça prend vraiment des critères assez importants là, pour être capable de... Parce que sinon, il y aurait des recalls à tous les fins de semaine, on passera notre temps à changer le monde.
Mais faisons-le. J'ai une autre idée. Il faut que les députés aient la chienne.
Oui, mais j'ai une autre idée pour toi.
Il faut qu'ils disent, attends un peu, là, moi, là, j'ai promis ça dans mes élections, là, j'ai promis ça à ma communauté, j'ai promis un aréna, le premier ministre me dit non. Bien, il faut que j'aille cette aréna-là, il faut que je trouve les moyens, parce que sinon, ils vont me dégommer après 2 ans. Il faut qu'il y ait peur du peuple. Là, d'accord. Les députés ont peur du chef en haut, qu'ils devraient avoir peur des chefs en bas.
Ils ont peur du whip. Le whip, tu sais, c'est quoi le whip dans un parti? Dans le fond, c'est
lui qui tient le bâton.
La police là, interne du parti. Là.
Il tient le bâton.
Oui, c'est ça. Ils ont peur du whip et de la gang des communications qui sont autour du PM ou bien du chef. Ce que je te propose au lieu du recall, là, c'est que... Premièrement, ça serait dur à implanter au Québec. Là. Premièrement, on a de la misère à peinturer un pont, fait qu'on est loin d'avoir le recall.
Puis ils ne voudraient pas parce que ça ne serait pas à leur avantage.
Non. Mais puis ce que je te propose, ça n'arrivera pas non plus, mais ce serait peut-être un compromis qui, à mon avis, aurait peut-être des meilleurs résultats. C'est que tu vois, aux États-Unis, la Chambre des représentants, qui sont 435, les élections, d'autres, c'est aux 2 ans. Les sénateurs, c'est aux 6 ans, mais vu que 100 sénateurs au Sénat, c'est en rotation. Fait qu'à chaque 6 ans, il y a 33% du Sénat qui est en élection. Fait que c'est comme si à chaque 2 ans, il y avait un changement dans le Sénat aussi. Alors, parce que l'autre, c'est aux 2 ans, le président, c'est aux 4 ans. Alors, imagine si au Québec, on avait, je ne dis pas les 125 au complet, mais peut-être en rotation, le tiers de l'Assemblée qui sera en élection. Puis 2 ans plus tard, c'est un autre tiers. Puis 2 ans plus tard, c'est un autre tiers. Puis après ça, bien, la boucle recommence. Fait qu'aux 2 ans, tu as toujours des élections, mais c'est pas pour les 125. Fait que je sais pas, là, divise, on va faire un chiffre fictif, là, divise ça, mettons, 40-40-40, là, pour faire un chiffre rapide. Là. Fait qu'à chaque 2 ans, tu as 40 élus, puis ils sont pas tous dans le même tal, évidemment. Là. C'est pas 40 à Montréal, puis non, t'es dispersé. Là. Fait que là, tu sais que ton time-out, là, c'est 2 ans. Fait que si t'écoutes pas, puis si tu fais pas ta job, 2 ans plus tard, t'es plus là.
Ouais.
OK?
Embarque.
Alors, ça, on n'en parle jamais. On parle là, de la proportionnelle, que ça sauverait si. Écoute, ça fait 20 ans qu'on parle de la proportionnelle. Comme je te dis, on n'est pas capable de peinturer un pont. On ne fait ni un ni l'autre, ni la proportionnelle, ni le pont. Alors, mais si les gens. Les élections 4 ans à cette heure, c'est juste trop. C'est juste trop. Le principe du 4 ans, ça a été inventé à l'époque où l'Internet n'existait pas, l'instantanéité n'existait pas, la vie bougeait beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, tout va vite. Je veux dire, tu sors une nouvelle aujourd'hui, elle est déjà vieille demain. Les gens ont des besoins rapides. Tout est extrêmement rapide. La seule affaire qui n'est pas rapide, c'est les élus. Alors, je sais que ça n'arrivera pas.
Puis on a des politiciens qui sont parasites, là, qui dépendent de cette job-là à l'Assemblée nationale. T'sais, ils ne veulent pas quitter cette job-là parce qu'ils savent que leurs conditions, par la suite, vont être désastreuses. Puis tu sais, je suis tanné de taper dessus, honnêtement, parce que j'ai peur pour l'homme, là. Mais Éric Kerr, là,
ouais.
Lui, il s'accroche. Là. Puis le François Legault ne veut pas l'évacuer parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il va faire. Il va-tu démissionner? Parce que là, s'il démissionne, on s'en va en partiel. Donc, est-ce qu'on le laisse ministre? Là, on va y encore y donner des milliards. Là. Tu sais, ça a été annoncé ce matin. On va encore lui donner des milliards alors qu'on s'aperçoit que le gars, dans le métier qu'il fait actuellement et ce qu'on lui a donné comme job, il est incompétent pour le faire. On continue de donner des milliards alors que ça ne va pas bien. T'sais, c'est une patate chaude, Éric Kerr, pour le gouvernement. Puis moi, je m'inquiète pour l'homme.
Oui.
On me dit qu'il ne se rend pas tout compte tu sais, de ce qui se passe, là.
Okay.
Mais je crois pas une seconde. Moi, je pense que quand tu te couches le soir, puis que tu as entendu tout ce qui était dit sur toi, que tu as lu tout ce qui était dit sur toi, que tes employés quittent, que tes collègues, ministres et autres députés te regardent du coin de l'œil en disant « on a hâte que tu décrisses », le soir, avant de te coucher, ça doit être raide, c'est un méchant temps.
Complètement d'accord avec toi. De toute façon, on ne fait pas sur l'homme, on fait sur l'élu. Il y a une différence. Lui, ce qu'il fait dans sa vie privée, c'est ses affaires, on fait sur l'élu. Et puis, pour la manière de juger un élu, c'est simple, il n'y a rien qu'une méthode. Tu fais-tu la job? Tu fais-tu la job ou tu la fais pas? Alors là, celui, ça fait 15 ans qu'il est élu. Souvent, je l'ai dit en ondes, pour juger un député, peu importe lequel qui est au Québec, là, que ce soit un homme, une femme, peu importe, là, vous jugez, êtes-vous capable de nommer une chose qu'ils ont faite à l'Assemblée? Je ne vous dis pas là, les chèques qu'ils ont distribués dans le comté là, du soutien à l'action bénévole, qui ont donné 250$ à un organisme communautaire pour les aider dans leur financement pour je ne sais pas quelle activité. Ça, c'est bien correct, mais c'est pas ça la job. La job, c'est législateur, t'as-tu fait quelque chose d'intéressant? Si t'es pas capable d'en nommer, ben voilà, c'est que je te dis pas qu'ils travaillent pas, mais où le résultat? Moi, la phrase que je dis souvent, c'est pas la méthode, mais c'est le résultat. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est ça. Alors, dans le cas d'Éric Kerr, il y a où le résultat? Dans le cas de Fitzgibbon, qui est censé être un super ministre, c'est quoi ce qu'il a fait comme résultat?
Rien. Absolument rien.
On en parle tout le temps de ce gars-là, mais c'est quoi qu'il a fait? Je te dis pas avant, là, que c'est dans sa vie antérieure, mais comme ministre, c'est quoi qu'il a réalisé? Il passe sa vie à passer à la TV pour dire qu'on manque d'électricité, pour falloir passer nos sécheuses à 2h du matin. Il est censé être un brillant économiste ou je sais pas trop quoi.
Il bat des records sur le manque à l'éthique, mais concrètement, sur le terrain, on sait pas ce qu'il
fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, vous avez la réponse. Moi, je comprends. La seule raison pourquoi Éric Kerr est encore ministre, c'est l'orgueil du premier ministre, that's it. C'est lui qui décide.
Mais en fait, c'est la seule raison pour laquelle Éric Kerr est encore là, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir Éric Duhaime entrer.
Ben, je serais étonné que il pourrait sortir du caucus puis il va rester à la CAQ. Comme tu viens de dire, là, M. Kerr, là, il n'a pas le CV pour dire après ça, je m'en vais sur un conseil d'administration d'une grande multinationale. Non, il ne se fera pas inviter. Okay?
Puis si il se fait inviter après quelques semaines, ça va être terminé.
Non, il n'y a pas eu contact de toute façon. Tu sais, quand tu te fais inviter sur un CA d'une multinationale, c'est parce que tu gardes des contacts à l'interne. Lui, il fait longtemps qu'il est là, mais il n'est pas respecté. Fait que, quand je dis de l'orgueil, c'est qu'il ne veut juste pas montrer à la population que c'est fourrant en lui donnant un poste de ministre. Le PM. C'est le PM qui décide qui est ministre ou pas. Hein? Mm-hmm. Il n'y a pas personne d'autre. Il y a ses chums autour de lui, puis on dit Koskinen, etc. Mais au final, là, c'est le PM qui décide. Puis si Éric Kerr, aujourd'hui, est encore ministre, parce que le PM est trop orgueilleux pour avouer qu'il a fait une erreur en le nommant là, puis il a peut-être peur, effectivement, qu'il peut partir en électron libre, mais je serais bien étonné, honnêtement, là, qu'il décide de dire je m'en vais à part de ça, là. Duhaime, là, il veut-tu vraiment Éric Kerr dans sa gang?
Non. Là, c'est parce qu'on ira en partiel. À partir du moment où Kerr démissionne, on s'en va en partiel.
Ah non, mais je te dirais, mettons, il fait juste dire t'es plus ministre, tu t'en vas député. Puis là, Éric Kerr dit ouais, ben à ce moment-là, non, moi, je m'en vais indépendant, je m'en vais avec BCQ.
Duhaime s'est déjà prononcé là-dessus, quoi, qu'il pourrait peut-être revenir, mais je pense pas que ce soit le genre d'Éric. Là. Mais Éric a dit que quand ben même qu'il reste député, il approcherait. Il ferait pas de maraudage avec.
Ça veut tout dire. quand un parti au Québec, là. Qui a subi, là, on va le dire, là, qui a quand même une distorsion électorale. Là. C'est pas pour les défendre, mais c'est vrai pareil. Tu as 530 000 votes puis, sur 4,6, puis tu n'as pas un élu, ça ne marche pas. Alors, puis c'est tout dire. Là. Lui, il dit, moi, je veux absolument rentrer à l'Assemblée nationale, mais je ne rentrerai pas avec Éric Kerr. Ça veut dire à quel point il est respecté, ce gars-là. Ouais. Comme tu viens de dire, là, il y a une annonce comme quoi qu'il y aurait des milliards pour la réforme numérique. Écoute, la cybersécurité dans le monde, là, c'est le sujet number one. On va en parler tantôt avec Kissinger. Là. C'est des pays voyous, là, les attaques sur des sites web gouvernementaux, que ce soit au Québec, Canada, États-Unis, name it, c'est à tous les jours, à côté de centaines, à côté de milliers. Il faut que tu sois extraordinairement ouvert, lucide, compétent, que tu sois capable de t'entourer de gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement formés. C'est super compliqué. Puis là, ben, on est Éric Kerr là, qui n'est pas capable d'aboutir la SAC. La réforme de clic de sa clique.
Ouais. Un des meilleurs experts qu'on peut avoir au Québec en cybersécurité, c'est Steve Waterhouse, qui est un gars avec qui on parle régulièrement. Mm-hmm. Puis lui, il avait ce poste-là et il a décidé de quitter parce que ça ne fonctionnait pas. Puis je ne veux pas le faire parler, là. Il n'a pas dit pourquoi il quittait, mais il a été remplacé par quelqu'un qui n'avait aucune expérience en cybersécurité. Les gens qui ont décidé de quitter le ministère d'Éric Kerr pour ce qui est de la cybersécurité ont tous dit que le fonctionnaire qui est le sous-ministre en place... Ouais. Refuse de changer ses méthodes de travail. Mm-hmm. Donc là, le fonctionnaire qui, lui, est un notaire de formation, qui est un fonctionnaire depuis le début de sa carrière, C'est pas trop c'est quoi le job de cybersécurité, mais il est là, puis il dirige l'équipe de cybersécurité. Puis Tucker en haut, qui regarde comme avec son œil de pigeon, puis qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe, ça fait pitié. Puis de savoir qu'il y a encore des milliards qui vont pleuvoir sur ce ministère-là, je trouve que c'est hallucinant, mais en même temps, c'est le Québec dans lequel on vit actuellement. Tu as parlé de Kissinger.
Oui.
Faut que je fasse avancer le dossier parce que,
oui,
je sais que c'est ton petit dessert. Fait que,
oui,
je veux être sûr d'en parler avec toi. On termine le dossier municipal avec le maire de Québec qui,
oui,
part une campagne,
oui, monsieur,
marketing pour que les citoyens de Québec qui sont mécontents arrêtent d'insulter son staff. Je salue l'initiative du maire. Et je salue aussi les employés municipaux qui se font crier après. La plupart des employés municipaux qui se font crier après sont pas responsables. Mais de l'autre côté, si les citoyens étaient satisfaits du déneigement, est-ce que les citoyens crieraient après des déneigeuses tout le temps?
Ça,
si les citoyens étaient satisfaits du ramassage des vidanges, là, y engueulerais-tu le gars qui fait les vidanges?
Rappelle-toi l'événement là, du déneigement là, pendant le Super Bowl, là. C'était...
Ah ben oui, c'était une grosse fin de semaine.
Ah oui, c'était à Saint-Valentin, je pense,
ouais,
aussi.
Il y avait plein d'affaires en même temps.
Plein d'affaires, puis on décide de pas déneiger, parce que c'était quoi la raison qu'il avait dit? C'était pour sauver la planète ou il avait pas pensé?
Il y avait une histoire d'heure avec les gars de déneigement.
Ah, ils ont fait tant d'heures.
Ce qui a été défaite par l'école bleue, on dit non, on aurait pu sortir pareil.
L'école bleue, par contre, quand c'est le temps de démolir des maisons en urgence en pleine nuit, là, ils ont du monde, les heures existent.
Ouais.
Mais quand c'est le temps de déneiger puis donner des espaces de stationnement aux commerçants, ça, ils n'ont pas le temps. Écoute, comme tu dis, là, si les gens sont satisfaits, ils vont se plaindre moins, c'est tout.
Ouais.
Et vous êtes nos employés.
Ouais.
Le maire, tu n'es pas notre roi. Tu n'es pas notre dirigeant là, qui a été élu là, par le bon Dieu pour nous dire comment agir, nous autres. Là, on n'a jamais vécu. Là. Écoute, je suis étonné que ce soit la Ville de Québec qui fasse ça, premièrement, parce qu'ils parlent d'école bleue. Alors, pourquoi c'est pas le syndicat d'école bleue qui sort publiquement pour dire... moi, je suis allé au syndicat d'école bleue, ou l'école bleue, eux-mêmes, qui font ils en ont de l'argent, le syndicat d'école bleue.
Ouais.
Ils peuvent payer une publicité, puis dire, écoute, on se fait rentrer dedans, on fait notre meilleur. Puis moi, je trouve que ça aurait eu beaucoup plus d'impact, parce que les gens ont du respect pour l'école bleue, parce qu'ils savent bien que c'est pas eux autres qui décident quand déneiger puis quand pas déneiger.
Exactement.
Alors là, les gens auraient dit, ouais, eux autres, là, ils sortent publiquement, ils ont pris de l'argent dans leur caisse du syndicat pour dire que ça aurait changé le spotlight sur l'administration. Parce que c'est eux autres, au final, qui sont responsables. Si vous avez des bridaux, puis des ci, puis des ça, c'est l'administration qui gère ça.
Mm-hmm.
C'est pas l'école bleue qui se lève le matin et dit, bon, aujourd'hui, on déneige-tu, là? Ou on va réparer tel aqueduc. Là. Je sais pas. Moi, ça sent la manœuvre politique, là, parce qu'on sait là, que M. Marchand là, il est pogné avec une autre station de radio. Là,
ah, il déteste être contesté, puis il a utilisé des mots, puis il les a tournés dans un sens où ça n'avait pas lieu d'être. T'sais. Ce que Doom disait, c'est « coudon le main, en fume-tu du bon? »
Ouais,
ouais. C'est une expression québécoise, puis on dit des fois que le maire erre dans son travail, puis il a utilisé cette expression-là, puis là, le maire, lui, il a pris la balle au bon, il a switché ça en disant que Doom le comparait avec quelqu'un qui
prenait
de la drogue,
puis
là, il trouvait ça inacceptable. Tu sais, ça sert plus le maire, puis là, il y a des gens qui se sont prononcés à Montréal,
ouais,
comme quoi ça n'avait pas de bon sens encore, la radio toxique à Québec. Et je salue Patrice Roy, qui a dit,
ouais,
moi, j'ai écouté l'extrait, puis il n'y a rien là-dedans. Là. Patrice
exact.
Roy, c'est le gars de Radio-Canada, là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
Il y a d'autres journalistes qui sont sortis pour dire, on ne comprend pas
y a
trop.
Rien
là,
non. C'est une stratégie du maire pour essayer de museler les gens qui sont mécontents de son travail. Ce qu'on me dit à l'interne, à la ville, c'est que le maire déteste être contesté.
Ben, il n'est pas dans le bon job.
Il a une difficulté à se faire dire qu'il erre à certains endroits quand il essaie d'y aller. T'sais. Monsieur le maire, vous n'allez pas à bonne place. Non, mais, monsieur le maire, on vous le dit, vous n'allez pas à bonne place. Il a de la misère avec ça. Puis là, ben, quand il lit des papiers, ça le fâche. Quand il entend des trucs à radio, ça le fâche. Puis là, ben, tu comprends qu'ils ont trouvé comme une façon de mettre ça plus grand, c'est-à-dire on va s'occuper de nos employés de la ville. Je répète, là, je l'ai dit dans l'émission du midi, on peut évaluer un service à la clientèle à compter les gardiens de sécurité qui sont en place.
Au nombre de plaintes. Puis
Non, gardien, tu rentres dans une place où c'est du service à la clientèle qui est supposé d'être offert, là, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. S'il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a d'employés fédéraux, va pas là. Va pas là parce que tu sais que le service à la clientèle va être de la crise d'amarre.
Mm.
pardonnez-moi l'expression, là, mais c'est souvent ça, tu sais. Quand tu vas à la SAC, tu t'attends à avoir, sur l'heure du midi, moi, ça m'est arrivé, là, c'était peut-être une fois, là, je suis peut-être pas tombé à bonne place, mais moi, j'arrive là sur l'heure du midi, j'avais une pause sur l'heure du midi, ça donne qu'il y a des gens qui ont comme une heure, là, de pause, ouais, sur l'heure du midi, c'est quelque chose qu'ils viennent d'inventer.
Ouais, c'est nouveau.
Et les employés de la SAC étaient partis sur leur heure de dîner, ce qui fait en sorte qu'il y avait un seul guichet d'ouvert, puis il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient dans la salle.
Voilà.
Il y avait combien d'agents de sécurité? C'était un petit peu vers la fin de la COVID, là. Il y avait 3 agents de sécurité dans place. Je vous le dis, là, vous évaluez un service à la clientèle au nombre d'agents de sécurité qu'il y a en place. Quand il y a trop d'agents de sécurité, ça veut dire que vous allez attendre longtemps sur un méchant temps. Là.
Je comprends pas
ce qu'ils fassent le job, puis cela dit, avec une campagne là, de marketing comme ils ont sorti, là, qu'on peut consulter sur les sites, sur les réseaux sociaux de la ville, là, qui dit « Bon, vous n'avez pas le droit d'insulter un fonctionnaire, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de classe. » Moi, je suis entièrement d'accord avec ça.
Ben oui, tout le monde est d'accord avec
t'sais,
ça.
Le travailleur là, qui est signaleur, là, de le faire chier en essayant de le montrer que tu peux le frapper avec ton char, c'est juste cave. Là. Mais avec cette campagne-là, c'est pas lui que tu rejoins. Là.
Non, puis je pense que ça va peut-être même avoir l'effet contraire. Le maire n'est pas dans une position présentement là, où c'est très, très, très apprécié. Je veux dire, à toutes les semaines, on nous apprend quelque chose de négatif à propos du tramway. Il n'écoute pas personne, puis là, il nous demande de respecter les autres. Alors, lui, il ne nous respecte pas. Puis là, c'est lui qui s'en va en avant pour dire « Respectez donc mes employés. » C'est pas, là, il y a une dissonance entre ce que tu fais et ce que tu dis, là. Puis les gens ne sont pas caves à temps plein, ils le voient bien, là. Ouais. Même les gens qui sont pour le tramway, là, ils voient bien qu'il y a des problèmes puis qu'on s'en va dans une affaire qui n'a pas d'allure. Les référendums, ça existe encore, ils ne veulent rien savoir. Mais il faudrait respecter les employés. On est, comme tu viens de dire, on est d'accord, respecter les employés, ça va de soi, tu respectes tout le monde.
Ouais. Moi, je veux dire les vraies choses. Là. Le maire est sorti il y a 3 semaines. Je veux dire les vraies choses. Le maire est sorti il y a 3 semaines en disant « Pour les gens de Québec, il y a 2 choix. Soit qu'on prend l'argent puis on fait le projet à Québec, ou soit qu'on laisse aller cet argent-là puis ce sera utilisé à Montréal, à Toronto, dans l'Ouest canadien. »
Quelle blague! C'est ça, c'est un...
Là, moi, j'attendais comme la finale. Aller sur le site de la ville puis voter un des 2 choix. Il l'a pas fait.
Je rappelle aux gens qui nous écoutent, là, les référendums municipaux au Québec, ça existe depuis 1930. Et ça a été éliminé par le gouvernement Couillard le 15 juin 2017 avec la loi 122. Alors, depuis 1930, on avait un référendum. Puis là, à partir de 2017, c'est l'inverse. Les référendums existent encore, mais avant, c'était les citoyens qui pouvaient les demander. Maintenant, c'est la ville qui décide d'en faire un ou pas si ça y tente. Alors, monsieur le maire, là, il sait ça. Il n'est pas câble non plus. Là. Il sait qu'il peut faire un référendum, mais il ne veut pas en faire un. Et là, il va dire, mais ça coûte cher. Ben, sais-tu quoi? D'après moi, là, si on se met à la gang, on pourrait trouver l'argent pour le payer, le référendum. Il ne le ferait pas non plus. Il ne ferait pas pareil. Même si ce serait gratis. Il ne veut pas le faire parce qu'il sait très bien qu'il y a un très grand risque que ça soit non.
Ben oui, c'est clair.
Alors, quand c'est ça, là, puis tu demandes de respecter tes employés, là, tu pourrais commencer à faire le ménage à ta maison avant de venir chez nous et dire que c'est sale, OK?
Exact. OK, le petit dessert de Sébastien Clavet. On a
oui,
du
monsieur.
Temps en masse. Là. Sébastien, il me disait en début de semaine, « Yann, j'aimerais ça te parler d'Henri Kissinger. » Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît Henri Kissinger, mais c'est un personnage qui est très intéressant. Je dis, « Sébastien, on va faire une émission complète. On va prendre plein de sujets comme on jase à chaque fois que tu viens te passer. Puis je te promets, on va parler de ton Henri Kissinger. »
Écoute, c'est parce que quand tu es fan de politique, puis bon, quand je dis ça, je suis fan de politique, oui, au Québec, Canada, mais international aussi, puis américaine. Et puis, Dr. Kissinger, parce qu'il y a un doctorat, évidemment, c'est une figure très influente du 20e siècle. Alors, c'est pas juste quelqu'un que moi, personnellement, j'aime, là, mais au niveau culture populaire, il a été, pas lui-même, mais je veux dire, personnifié dans des films, des séries télé, dans des comics, dans des... je veux dire, aux États-Unis, c'est une superstar. Et pourquoi on parle de Henry Kissinger aujourd'hui plutôt qu'un autre moment, c'est qu'il va avoir 100 ans dans 2 jours.
Ah, il est toujours en vie?
Il est toujours en vie, M. Kissinger. Il est né le 27 mai 1923. Et il est encore actif.
99 ans.
Aujourd'hui, c'est ça. Dans 2 jours, il va avoir 100 ans. Et il est encore actif et d'une présence et d'une vivacité d'esprit hors du commun. C'est un peu super naturel, son affaire.
Kissinger, c'est un Allemand?
Oui. Il est né à Fürth, en Allemagne. Et puis, en 1938, pour faire un petit résumé, là, sa famille a migré aux États-Unis pour éviter la persécution des Juifs, parce qu'on sait que l'année d'après, en 1939, il se passait des affaires
ouais,
en Allemagne.
C'est ça, 1939-1945.
Ouais, ça brassait un peu.
C'est un Allemand.
Alors, ils ont décidé de fuir pour éviter de passer au four à gaz. Et en 1943, il est naturalisé citoyen américain. La même année, il s'en va, il est enrôlé dans l'armée, il va être dans l'infanterie, la 335e 3e infanterie, régiment... je vais recommencer. Le régiment 335 de la 84e division. Tout ça pour dire que ce monsieur-là, non seulement il a émigré aux États-Unis, mais il a contribué à son pays. Hein. Il a été dans l'armée, ça, c'est remarquable. Il aurait pu dire non, mais...
Alors, il était interprète pour les services secrets américains.
Exactement, ce qu'on appelle le CIC, le Counterintelligence, et puis dans le contre-espionnage, parce qu'évidemment, il était même jeune, il était brillant. Il rentre dans l'armée à 20 ans, et vu qu'il parle allemand aussi, ben, c'est bien utile pour la Deuxième Guerre mondiale. Il va obtenir le grade de sergent en tant qu'agent spécial dans le corps du contre-espionnage. Alors, il fait un bout dans l'armée, et puis... il est monté vite quand même dans l'armée parce qu'en 1944, il y a une bataille, une des plus importantes batailles américaines dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est la bataille des Ardennes. Battle of the Bulge en anglais. Et lui, il s'est porté volontaire pour participer à cette bataille-là où il y a 19 000 Américains qui sont morts, 47 500 blessés, 23 000 manquants. C'est une des plus grosses et plus sanglantes batailles de la Deuxième Guerre mondiale du côté américain. Lui, il s'est porté volontaire, il n'était pas obligé de le faire. Dans les dernières années, dans les derniers mois de la guerre, il a été mis en contrôle de la ville de Krefeld pour rebâtir l'administration parce qu'évidemment, là, les nazis se sauvait ou il était décédé ou peu importe, alors il fallait rebâtir ça. En 45, avril-mai, il a pour mission de traquer les membres de la Gestapo et autres saboteurs à Hanovre où il obtient l'étoile de bronze. Et l'étoile de bronze, c'est la 4e plus haute distinction pour la bravoure, l'héroïsme et le mérite. Alors, il n'a pas juste été un backbencher à analyser des choses là, en arrière. Non, non, il a réellement participé. Il y a l'étoile de bronze de ce monsieur-là. Je dis ça pourquoi? Parce que plus tard, vous allez comprendre aussi qu'il a été critiqué dans ses activités comme secrétaire d'État comme conseiller de la Sécurité nationale. Évidemment, en juin 1945, la guerre se termine. Il est commandant du CIC pour dénazifier la ville de Bensheim. Alors, il a été dans l'action, comme on dit.
Dénazifié,
oui. Parce que
c'est doux à mes oreilles.
Ouais, parce qu'évidemment, les nazis, là, quand ils ont vu que ça prenait le bord, ils ont décidé de se cacher au travers de la population puis essayer de faire. Il y en a beaucoup qui faisaient ça.
C'est ça. Mais comment ils faisaient pour dénazifier? Ils faisaient des recherches sur les nazis, ils les trouvaient, ils les envoyaient en tôle?
Oui, c'est ça. Alors, c'était des poignées parce qu'ils se cachaient au travers de la population restante.
Ouais.
Et puis là, ils faisaient semblant, exemple, d'être un citoyen magané ou peu importe.
Ouais, c'est ça. Mais on l'a eu au Canada aussi. Ouais, ils se sont cachés.
Exact. Fait que quand on dit dénazification, là, c'est vraiment un terme qui existe là, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Pour finir un petit peu sur son chemin.
C'est une belle job, par exemple.
Dénazifier?
Ouais.
Ouais, c'est quand t'es du bon bord, là.
Non, mais tu sais, lui, il était traqué, là. C'était un juif, là.
Ouais, ben lui, là, sa mère, elle l'avait dit. Elle dit si on était resté, on serait mort. C'est aussi simple que ça.
T'as comme une motivation supplémentaire à ton travail, tu sais.
Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve ça remarquable parce qu'il s'est impliqué dans l'armée. Là. Il n'a pas juste à regarder ça de loin en analysant des cartes. Je dis pas ça là, péjorativement envers d'autres. Là. Je dis juste que ce monsieur-là, parce que par après, il a été un diplomate, un monsieur à cravate, mais dans sa jeunesse, il a vraiment été dans les deux mains, là, dans les tranchées, là, puis à se battre pour vrai. Là. Alors, au niveau académique, 2 ans plus tard, il rentre à Harvard. En 1950, il a son bac, summa cum laude, une expression latine qui veut dire qu'il est dans 5% des meilleurs. Alors, c'est déjà, on voit là, que c'est un gars qui est brillant. En 1954, il a son doctorat en sciences politiques. De 54 à 71, il va être professeur, membre de la faculté à Harvard. Et en 1955, il va écrire un article important dans le Foreign Affairs. C'est une publication, un magazine sur les affaires étrangères. Et lui, dans cet article-là, c'est un article charnière parce qu'il va parler de la guerre à l'âge de la bombe thermonucléaire. Bon, tu sais, c'est quoi la différence entre la bombe atomique et la bombe thermonucléaire? C'est que la bombe atomique, c'est sur la fission nucléaire. Et la bombe thermo, c'est fusion nucléaire. Alors, évidemment, la bombe à fusion est beaucoup plus puissante et beaucoup plus dévastatrice que la bombe atomique ordinaire. Alors, du jour au lendemain, là, en 1955, quand il sort cet article-là, il devient un expert instantané de la stratégie nucléaire. Et pas longtemps par après, Nixon est élu en 1968. L'année d'après, en janvier, Nixon monte son cabinet et il est nommé conseiller à la Sécurité nationale sous Nixon. En juillet 71, c'est important ce que je vais dire là. Il y a un proverbe, tu vas trouver que c'est drôle, mais c'est un proverbe vulcain qui va comme suit « Only Nixon can go to China ». Ça sort d'un film, Star Trek 6. Okay. Comme je te disais que Nixon et Kissinger sont dans la culture populaire. Là, c'est... Alors, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que...
Fait la même affaire pour Donald Trump pour ce qui est de la Corée du Nord?
Non, pas encore. En tout cas, moi, je n'ai pas vu, là, mais ça va un jour, sûrement. C'était quand même historique, hein? Je veux dire, le président qui traverse la ligne. Là,
en Corée du Nord, ben oui.
Et tout le monde, moi, je l'ai regardé live, là, tout le monde s'en regardait en voulant dire, il va se faire tirer. Là, c'est
quoi que... moi, je ne suis pas un passionné comme toi de la politique américaine. Je suis ça de loin, je lis les articles, je fais mes devoirs, j'essaie le plus possible d'être généraliste. Puis quand j'ai vu que Trump se présentait aux élections, je regardais ce qui s'écrivait sur Donald Trump. C'était comme l'antéchrist là, qui allait peser sur le fameux piton pour tout détruire. Ah, pendant son mandat de 4 ans, ça a été un président de paix. Là.
Pas de guerre, l'économie. Ben, malheureusement, la COVID est arrivée, mais sinon, ça allait bien. La bourse allait bien. En tout cas, bref, ceux qui disaient que la Terre allait arrêter de tourner, là, ils ont tous été confondus.
Mais tu sais, t'avais, là, je m'excuse, il y en a qui vont être outrés de ça, mais en même temps, tout le monde sait que Donald Trump, il est intense. Là. T'avais comme le roi des fous qui contrôlait les fous.
Mais c'est ça, les gens l'ont élu un peu pour ça.
Ouais, tu sais, t'as l'autre à l'autre bout en Russie qui dit ouais, si je fais quelque chose de mal, ça se peut que l'autre il soit plus fou que moi. Là, que
les 70 millions qui ont voté pour lui en 2016, là, c'est pas tout des câbles.
Là. Ben non. Puis c'est la même chose pour Kim Jong-un qui se disait t'as peu. Là,
ouais, les élections, lui, c'est un peu différent par contre.
Tu sais, Biden, ouais, là, mais Trump, non, faut pas.
Pour continuer avec mon monsieur Kissinger, il se passe quelque chose d'important dans les années 70, c'est qu'il faut comprendre que la Chine, là, elle part de loin. C'est un peuple qui existe depuis environ 5000 ans, mais dans les années 60, il faut dire que la Chine, il y a une révolution en 1949, les communistes prenaient le contrôle, OK? Et c'est un pays là, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de technologie, qui n'a rien, en fait. Les conditions de vie en Chine, là, dans les années 50-60, c'est exécrable. Alors, en juillet 1971, M. Kissinger fait un voyage secret à Beijing, car les États-Unis n'ont pas de lien officiel avec la Chine depuis la Révolution communiste, et ça fait à peu près 20 ans qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Ils n'ont pas d'image même. C'est fermé, c'est hermétique. Alors, en secret, Kissinger, en tant que conseiller de la Sécurité nationale, il s'en va rencontrer le premier ministre chinois à ce moment-là, qui est Zhou Enlai. Évidemment, il y avait Mao Zedong qui était au-dessus du joug, mais eux autres, dans la structure, tu as le Mao qui est le chairman, le PDG, si tu veux, puis en dessous, tu as un premier ministre qui s'appelle Zhou Enlai. Ils rencontrent en secret pour établir une rencontre officielle entre le président américain et le chairman Mao Zedong un an plus tard, en 1972. Et ça, là, c'est un tremblement de terre politique. Quand tu regardes l'histoire de l'humanité, là, puis au niveau politique historique, là, 1972, février 21, quand Nixon rencontre Mao Zedong, c'est historique. Il n'y avait pas un autre président américain qui avait mis pied en Chine avant ce temps-là. Et là, on commence à avoir des vraies relations avec la Chine qui vont embarquer dans le système économique mondial. Et ça, bien, c'est grâce à la rencontre que Kissinger a faite avec Zhou Enlai. Alors, il fallait avoir les coups des franges pour dire « je m'en vais dans un pays ». Puis en plus, quand tu t'en vas dans un pays comme ça, tu ne sais pas si tu peux revenir. Hein? Moi, je me rappelle d'avoir lu la biographie de Donald Rumsfeld, qui était secrétaire de la Défense sous Gerald Ford et George Bush fils. Et le livre commence, là, puis il est dans une pièce en attente, il est dans une salle d'attente au palais de Bagdad pour rencontrer Saddam Hussein. Mais même quand tu es un diplomate très, très haut gradé, même si tu es des États-Unis, ils peuvent te garder, si ça les tente. Là, tu appelles qui là, pour venir te chercher? Alors, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Nixon reste quelques journées en Chine pour établir les relations. On a les Américains voient pour la première fois à la télé des images de la Chine. Et c'est là que la Chine se réveille. Évidemment, il y a eu la révolution culturelle chinoise, parce qu'il y a eu des dizaines de millions de morts. Mais là, les Américains voient ce qui se passe avec la Chine, et la Chine comme, va accélérer de façon fulgurante. Bien, pas besoin d'expliquer grandement où est-ce que la Chine est rendue aujourd'hui. Ils ont leur propre station spatiale, ça va très bien, les affaires. Ensuite...
dire que nos grands-mères et nos grands-pères achetaient des Chinois dans le temps.
Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est eux autres qui nous achètent.
Ouais.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe en 72? Il y a aussi un cambriolage dans un édifice qui s'appelle Watergate. Pas si ça dit quelque chose.
Oui, c'est gorge profonde, mettons.
Oui, gorge profonde, deep throat. Alors, le cambriolage là, qui se passe au Watergate. Watergate commence en 72, qui va culminer finalement avec M. Nixon qui va démissionner le 8 août 74. Mais ça ne touchera pas Kissinger parce qu'il n'y a pas vraiment de lien direct, lui, dans cette affaire-là. Mais évidemment, ça vient brouiller les cartes. Et puis, faire une parenthèse comme ça, Nixon, là, il n'avait même pas besoin de s'impliquer là-dedans, cette affaire-là, parce que quand il a été réélu plus tard dans l'année, en novembre 72, ça a été une des plus grandes victoires d'un président de toute l'histoire. Il a éliminé son adversaire à plate couture. Il a ramassé 49 États sur 50, ça a été magnifique. Mais malheureusement, il est allé trop loin, puis c'est ça qui est arrivé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 73, M. Kissinger est nommé secrétaire d'État. Pendant un certain temps, il va avoir les deux rôles. Hein. Il va être conseiller à la Sécurité nationale et secrétaire d'État de la puissance numéro un dans le monde. C'est en mène large.
Okay. C'est lui qui est au Vietnam?
Lui, il va obtenir le prix Nobel pour avoir négocié la paix pour la fin de la guerre du Vietnam.
Au Vietnam, c'est
Parce que la guerre du Vietnam, la finit en 1975, mais elle dure 20 ans, en fait. Elle commence en 1955, officiellement, la guerre du Vietnam. Nous autres, on a plus...
Elle a duré 20 ans?
Oui. Officiellement, ça, ben 19 ans et 12, 11, 10 mois, genre. On a fait de même. Mais commence en 1955, se termine avec la chute de Hanoï en 1975.
Mm-hmm.
Et puis, évidemment, là, les premiers pourparlers pour mettre la fin à la guerre du Vietnam commencent en 1973. Et c'est M. Kissinger qui va avoir négocié ça avec le duc Tho, qui est un politicien vietnamien qui va conseiller le Nord-Vietnam pour avoir le cessez-le-feu. Alors, c'est quand même bien dans ton CV, prix Nobel. Lui va avoir le prix Nobel conjointement avec le duc Tho. Le duc Tho va refuser le prix parce qu'il dit que la paix n'est pas encore arrivée, mais M. Kissinger l'a quand même eu. Alors, en 1974, le 15 juin, le livre « All the President's Men » sort par M. Bob Woodward et Carl Bernstein, ceux qui ont enquêté sur le Watergate. Le 8 août, comme je disais, Nixon annonce sa démission. Le lendemain, il s'en va. Kissinger est épargné par tout ça. Il est tellement épargné que Ford va remplacer Nixon.
Ouais.
Puis quand Ford n'est pas réélu, sous Ford, il va rester secrétaire d'État. Alors, s'il y avait eu des choses à se reprocher, Ford s'en serait débarrassé.
Ben oui.
Parce qu'au niveau public, là, le public voulait que tout le monde débarrasse, qu'on fasse le ménage au complet de la Maison-Blanche, qu'on recommence à zéro. Alors, sa cote d'amour et de respect était tellement forte que Gerald Ford l'a gardé comme secrétaire d'État. Évidemment, à l'élection de 1976, Jimmy Carter gagne, et bien là, Kissinger va perdre son poste parce que Jimmy a le goût de mettre quelqu'un d'autre à ce poste-là. Une vie remplie, incroyable. Ça, c'était sa partie au niveau politique. À partir de ce moment-là, quand il ne travaille plus pour le gouvernement américain, il va se partir une firme de consultants où il va consulter les plus grands de ce monde. Et la liste des clients, elle est secrète. Et les montants aussi sont secrets. C'est une compagnie privée, il n'y a pas besoin d'eux.
Ouais.
Mais il faisait une entrevue, parce que là, on en parle beaucoup aux États-Unis, M. Kissinger, parce que 100 ans, c'est exceptionnel. Puis ça a été une figure marquante du 20e siècle. Et puis, il fait une entrevue avec la revue The Economist la semaine passée. Et puis, le journaliste lui demande, il dit, « Pensez-vous que si vous prenez le téléphone et que vous appelez Xi Jinping ou Vladimir Poutine, ils vont répondre? » Puis, il répond « Oui ». Là, une personne qui regarde ça de loin pourrait dire, « Tabarnouche, il se prend pas pour n'importe qui, lui, là. » Ouais, mais c'est parce que lui, là, dans son cas, c'est vrai.
Ouais, il en a réalisé des choses, puis il était directement sur le terrain. Puis, tu sais, je pense pas que les jeunes prennent en considération ce que ça peut représenter, ce genre de personne-là. Il y a 100 ans, Steph. Ça veut dire que lui, là, il était là, là, puis conscient, mettons qu'il est né en 1922-23. Ça veut dire que lui, là, 1930, il était au courant de ce qui se passe autour de lui. Là.
Il a vécu
en est de l'histoire. Là.
Il a participé à la guerre. Il a vu la guerre de Corée. Il a vu la guerre froide. Il a vu la guerre du Vietnam. Il a vu Irak. Il a conseillé Reagan. Écoute, je fais pas tout son pedigree parce que son CV est long comme la terre.
Si je me fie à ma préfère à la maison de 15 ans, elle dirait « C'est qui ce gars-là?
» C'est une personne qui a été extrêmement respectée, qui l'est encore aujourd'hui. Une chose que je voudrais que les gens retiennent de M. Kissinger pour dire « Qu'est-ce que ça fait dans nos vies, ça, cette affaire-là, Kissinger? » Lui, quand il était à Harvard, c'était un promoteur d'un truc qu'on appelle en politique la « real politique ». Real comme real en anglais, là, mais c'est real politique, c'est de l'allemand qui veut dire politique réaliste. Ça désigne, je cite la définition, ça désigne la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l'intérêt national. C'est un terme forgé par Otto von Bismarck, un chef d'État et chancelier allemand du 19e siècle. Le terme désigne une posture de politique étrangère pragmatique par opposition à une politique idéaliste. On en a-tu un idéaliste à Ottawa, nous autres?
Pas mal, oui.
Ça, là, quand tu pratiques la réelle politique, tu t'en vas pas faire de la morale au chef d'État. Tu t'en vas pas dans un autre pays puis dire « Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. » C'est complètement l'inverse. Tu t'en vas dans le pays puis tu dis « On peut-tu faire affaire ensemble? » Si oui, ça va être quoi les règles? OK? Pas d'idéologie, pas d'émotion, pas de bien-pensance. Ça, c'est magnifique. Et au Canada et au Québec et même aux États-Unis puis dans plein de pays européens, ça manque énormément. Puis une des raisons pourquoi l'association des BRICS s'est formée dans les dernières années, les BRICS, ça, c'est Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine.
Ben, les laisser pour compte. Là.
En fin de compte, c'est tous ceux-là qui n'étaient pas dans le G7 et le
G20.
Ils ont dit, nous autres, on va se faire inclure, nous autres aussi, parce qu'on est tannés d'être assis à la table des enfants. Bien, quand là, tu traites les autres pays comme ça en leur faisant la morale, en les excluant du discours, bien, ils se servirent de bord et ils font leurs affaires. Maintenant, le BRICS... là,
c'est en train de devenir une force majeure.
Bien, le PIB combiné là, est plus fort que le PIB du G7 combiné. Et quand tu pratiques la réelle politique, tu regardes les autres États. Écoute, on le sait, là, il y a des pays comme la Chine, qui ont des problèmes au niveau des droits humains fondamentaux, mais c'est pas ça la réelle politique. Tu t'embarques pas là-dedans. Dis, on peut-tu faire affaire ensemble? Ça va bénéficier tes citoyens, puis ça va bénéficier mes citoyens, puis on va augmenter le niveau de vie. Ensuite, ça se passe. Qu'est-ce que tu dirais si les Chinois viendraient nous dire au Québec, là vous traitez mal vos Premières Nations? Vous devriez...
Ça va être correct.
Ça va être correct. L'indépendance, là, vous devriez faire ça parce que c'est une bonne affaire. On dirait, mais mêle-toi tes affaires.
Ouais.
La réelle politique, c'est ça. Et il n'a pas inventé la réelle politique, M. Kissinger, mais tout le long de sa vie, et c'était sa dissertation de thèse de doctorat, c'était ça, la réelle politique. Et il en a fait beaucoup, beaucoup la promotion. Et j'aimerais ça qu'un jour, ça revienne dans le discours. Je te dis pas là, à l'Assemblée nationale, parce que là, présentement, on a des gens qui se plaignent là, que c'est tough de se faire traiter de plantes vertes. Alors, on est loin un peu là, de la carrure de M. Kissinger.
Ah non, on est avec des petites fleurs, je te l'ai dit.
Il nous reste une minute?
Pour Kissinger, oui.
Écoute, dans la culture populaire, il y a un film, un classique de Stanley Kubrick, qui s'appelle Doctor Strangelove. Et dans le personnage de Doctor Strangelove, dans ce film-là, qui sort en 1964, est largement inspiré de Henry Kissinger. Largement.
Ah, oh, ouais.
Il ouais. Y a un opéra en 1987.
C'était-tu un homme à femme?
C'est un homme à femme. Écoute, je t'ai amené une photo. C'est en 1973, si je ne me trompe pas. Écoute, en 1973, Nixon, à sa maison en Californie, reçoit Léonid Brejnev, qui est le premier de l'URSS, c'est-à-dire le chef de l'URSS à cette époque-là. Alors, le 23 juin 1973, c'est une rencontre informelle là, pour essayer de normaliser les relations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1973, les États-Unis et la Russie, ce n'est pas des amis. Okay? Mm-hmm. Alors, il fait un petit cocktail, et puis Henry Kissinger arrive avec sa blonde du moment. Qui est parce que M. Kissinger a eu plusieurs blondes. Et sa blonde du moment, c'est Jill St. John. Madame Jill St. John.
Qui est un modèle de beauté. Là.
C'est une ex-Bond girl.
Ouais.
Elle a été dans le film Diamonds Are Forever avec Sean Connery. Et la photo a fait le tour du monde. Je la mettrai là, sur mon Twitter. Écoute, t'as Léonid Brejnev. Là, t'as les gens qui passent en avant de lui. Là, t'as Kissinger, t'as les dignitaires, puis là, tout le monde serre la main à Léonid Brejnev. Et là, t'as Mme Jill St. Gilles qui passe devant Léonid, elle serre la main, puis après, ça continue pour serrer la main à l'autre à côté. Puis t'as Brejnev qui regarde le postérieur de Mme St. Et c'est magnifique, cette photo-là, parce que on peut pas nier le fait que M. Kissinger était au courant de ça. Il sait qu'il y a une extrêmement belle femme à ses côtés. On est en 1973, hein? Le MeToo, on est loin de ça, là. Et il sait que ça va faire tourner les têtes. Et c'est un gars brillant, et c'est certain que ça a joué dans l'esprit et la tête de Brejnev.
Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit hein, concernant... Bon, c'était pas le plus, c'était pas le plus beau des hommes. Là. Qu'est-ce qu'il avait dit concernant les femmes de sa vie?
Écoute, une citation phénoménale, il disait « Power is the ultimate aphrodisiac. » Le pouvoir est l'aphrodisiaque ultime. Et il aurait dit ça en rencontre privée quand il était en Chine en 72 avec Zhou Enlai et Mao Zedong. C'est Mao Zedong qui, pour insulter les Américains, aurait dit « Comment vous faites, vous autres, les Américains? Vous êtes gros et laid. Comment vous faites pour avoir des belles femmes de même? » Puis lui avait dit « Du tac au tac, power is the ultimate aphrodisiaque. »
Voilà. Mais tu sais, Jean Chrétien a réussi à avoir une belle vie aussi, là. C'est avec la face qu'il avait, là. Claude Ryan.
Il devait avoir d'autres talents.
Ah oui. Ben, il avait le pouvoir.
Il avait le pouvoir, ça, c'est sûr.
C'était attractif. Hey, je veux passer quelques secondes avec toi. Encore une fois, on n'aura pas eu le temps de passer tous nos sujets. Ça me surprend. Pas vraiment. DeSantis, Trump, j'ai regardé les sondages, il y a à peu près 30 points d'écart.
Oui, monsieur.
Mettons qu'on fait des chiffrons. Trump est à peu près à 55% des intentions de vote. DeSantis, 25%. Est-ce que ça te surprend?
Non, ça ne me surprend pas. Puis en plus, depuis que DeSantis a comme... Lui a annoncé officiellement hier qu'il se présentait sur Twitter. Okay? Il a fait un événement, là, puis ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais ça faisait plusieurs mois et semaines là, qu'on se doutait que... Et puis... ça a eu l'effet contraire. Plus il s'approchait de la date à laquelle il allait officiellement annoncer sa candidature, plus il baisse dans les sondages. Alors, comme je te disais, là, M. DeSantis, c'est une superstar en Floride. Ça marche bien en Floride. Il est bon gouverneur en Floride. Pour les gens qui l'aiment en Floride, ils l'aiment beaucoup. Puis ceux-là qui le détestent, ils le détestent beaucoup. Mais quand la COVID est arrivée, la Floride, c'était le refuge. Tout le monde là, qui était écœuré là, d'être obligé d'acheter un chien, prendre une marche, là, on s'en va en Floride. Il y a des compagnies qui sont allées en Floride. Il y a une migration massive vers la Floride, vers le Texas aussi, mais c'est la Floride qui a ramassé le plus. Parce que DeSantis, avec ses règles, le monde aimait ça. Alors, en Floride, ça va bien. Mais à l'extérieur de la Floride, DeSantis, c'est plus ou moins. Tandis que Trump, c'est une vedette dans l'esprit des Américains depuis les 40-50 dernières années. Ouais. Écoute, Trump, là, il allait veiller au Studio 54 à New York en 1978.
Ouais, ça revient à ce que je te disais tantôt. Là, les gens...
DeSantis, il est loin de ça. Là.
Ouais, mais les aînés, là, Kissinger à 100 ans, Trump ouais. Qui est à 76. Je veux dire, ces gars-là, là, ils en ont vu les affaires que nous autres, on n'a pas vu.
C'est sûr. Écoute, il était souvent invité au Studio 54. Le Studio 54, pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, faites une recherche Google.
Ben, c'est Studio 54.
Studio 54, hein? Là, à New York, là, c'était le studio de la débauche. Il y a eu des films, des séries télé là-dessus, ouais. Comme pas finir. Et puis, tu rentrais. C'est pas n'importe qui qui rentrait là. C'était trié sur le volet. C'était la plus grande vedette qui était là. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que Trump était dans des films, dans des séries télé, et dans l'imaginaire américain depuis longtemps. Son style, ceux qui l'haïssent, ils le détestent. Ceux qui l'aiment, ils l'adorent. Comme je te dis, DeSantis, il est comme. Un peu plus... À côté de Trump, là, je veux dire, c'est un beigne qui goûte à rien.
Ouais. Un petit beigne sec.
Mais non, mais là, c'est parce qu'on parle pas de la présidence, on parle des primaires.
Ouais.
Là, faut comprendre là, que là, ce qu'ils font présentement, puis...
DeSantis, es-tu plus dans les extrêmes que Trump?
Non, beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Ah oui, beaucoup... Ben, il est dans les... De façon générale,
quand je vais parler... Dans les choses sensibles. Tu sais, l'avortement, ben, c'est sensible
en sacrifice. C'est ça. On va faire une précision. Là, ouais. C'est que dans sa façon de parler, il est beaucoup moins extrême que Trump. Parce que Trump, on va le dire, il va en dire des mensonges, Trump. Il va en dire des conneries, ça, c'est sûr. Mais les gens sont habitués de ça. OK? Par contre, quand tu parles d'avortement, et en plus, ça vient d'être signé là, en Floride, là, ça, c'est extrême, par contre. Parce que là, la restriction à l'avortement en Floride, elle est très sévère. Pas autant que la Caroline du Sud, mais depuis là, que la Cour suprême aux États-Unis a décidé que Roe versus Wade, ça ne marchait plus, puis qu'elle laissait aux États le soin de décider, bien, chaque État décide c'est quoi les règles d'avortement. La Constitution était faite comme ça, puis la Cour suprême avait raison de faire ça. Le jugement qui avait été passé en 73, le Roe versus Wade, ou 72, c'était toujours été un jugement qui avait été contesté. Aux États-Unis, comme j'ai dit la semaine passée, ou il y a deux semaines, c'est un pays qui est formé de plusieurs États qui sont unis. C'est pas un gros pays qu'on a divisé en comme une pointe de tarte. Alors, les États ont beaucoup de pouvoir à décider comment ils gèrent leurs patentes, puis l'avortement fait partie d'eux. Alors là, ça, ce qu'ils viennent de faire en Floride, ça va plaire aux Floridiens, en majeure partie. Mais pour le reste des États-Unis, les indécis qui regardent ça, puis ils disent, « Ouais, mais si DeSantis, là, il est président... »
Il va faire quoi?
Il va peut-être faire la même affaire pour le restant du pays. Tandis que Trump, lui, s'est jamais mouillé. Il n'a jamais fait de loi très restrictive sur l'avortement. Trump va dire, « Je suis pro-vie. » Mais DeSantis, non seulement il dit, « Je suis pro-vie », mais il a fait la loi qui dit, « Ben là, je pense pas que... » C'est pas 6 semaines en Floride, mais tu sais, t'as pas beaucoup de temps là, pour te rendre compte que t'es enceinte puis qu'il faut que tu prennes une décision.
C'est dans n'importe quel cas. Mettons, je sais pas moi, un cas où il y a un viol qui a agressé sa fille.
J'ai pas regardé le détail, honnêtement, parce que ça vient de passer, mais il y a certains endroits aux États-Unis que même quand c'est un viol, c'est non. Tu l'auras pas dans l'avortement.
Je peux pas croire qu'on parle encore de ça en 2023. SébastienClavet.com, tu mets tout ton travail là-dessus. On peut te suivre sur Twitter, sur Facebook.
Oui, surtout sur Twitter. Es-tu alors,
sur Instagram en maillot?
Non, pas en maillot.
Oh! Ça poigne auprès des femmes, ça.
Ouais, c'est ça. C'est quoi l'autre titre, là? C'est OnlyFans, là?
OnlyFans.
Ah, non, je suis pas là-dessus. Non, je suis pas là-dessus.
Ah, bah ouais, t'as un homme d'une carrure. T'sais.
Ouais, faudrait qu'Henry Kissinger me donne des trucs, là, pour.
Faudrait que t'aies le pouvoir.
Le pouvoir, c'est là. Le c'est pouvoir. Par là que ça passe.
SébastienClavet.com. Merci. On fait une courte pause, puis on revient dans quelques secondes.
Marceau, le soir. Les capitales sont en action cette semaine et plusieurs promotions sont au menu. Jeudi, gin tonic à 50%, vendredi, feu d'artifice et samedi, hot dog à 1$. Billets en vente à partir de 12$ à capitaldequebec.com. Les capitales, plus qu'abordable, plus que du baseball.
Chez Lunetterie Bella, en plus de nos forfaits verre et monture à 99$ et nos progressifs à partir de 249$, profitez du beau temps en obtenant pour une durée limitée jusqu'à 50% de rabais sur toutes nos solaires en magasin. Lunetterie Bella, service, qualité, plus bas prix.
Pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bobo et fils, l'expertise, le souci d'en offrir toujours plus et les conseils de qualité s'acquièrent avec les années. La passion, elle, nous habite depuis 85 ans. Votre centre jardin Gérard Bobo et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Jardinier amateur ou producteur, vous trouverez un grand choix de produits horticoles pour combler tous vos besoins. En pépinière, plusieurs rosiers, une multitude de grimpants, d'arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Première avenue à Charlebourg, Gérard Bobo. Bourbeau.com.
Allô, Nissan. Oh, spécial ta cravate.
Eh oui, Karine, c'est en l'honneur de la Sentra SV édition spéciale.
Puis qu'est-ce qui la rend si spéciale?
Ben, sa conduite dynamique, un toit ouvrant électrique coulissant, une calandre en V chromée, des jantes en alliage de 17 pouces.
Ben voilà, elle est spéciale dans le bon sens du terme. Ta cravate, elle...
Es-tu trop intense?
Un petit peu, oui.
Ouais. Louez la Nissan Sentra SV édition spéciale à partir de 329 $ par mois pendant 24 mois. En stock maintenant.
Jusqu'au 31 mai, à compte de 2049 $, valeur de 27 557 $. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Imaginez pouvoir côtoyer des gens d'ici et d'ailleurs et vivre l'effervescence du Vieux-Québec dans le cadre de votre travail. C'est votre chance. L'Hôtel Champlain est à la recherche de réceptionnistes, de superviseurs de réception et de préposés aux chambres à temps plein et à temps partiel. Vous êtes dynamique, travaillant et vous aimez profondément les gens? Joignez-vous à l'équipe de l'Hôtel Champlain, une propriété de Leclerc Groupe Hôtelier. Postulez maintenant au carrière.fm.
Puis, qu'est-ce que t'en penses?
J'aime vraiment ça. Au début, on sent le... C'est goûteux, c'est... Il y a quelque chose de vraiment... OK, non, pas tant que ça. Plus... Ah, puis goûte-y, tu vas comprendre.
Ben oui, tu parles de...
C'est exactement ça. Hey, t'as du vocabulaire, toi.
Microbrasserie La Souche. Une forêt de saveurs. Limoilou, Stoneham et à la grandeur du territoire.
Boulevard 102, 100 % Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour nous en ce jeudi soir. Actuellement sur Québec, c'est quelques nuages, mais sans pluie. Pour ce soir, cette nuit, on parle d'un minimum de plus 2 degrés. Même risque de gel au sol là, à certains endroits. Pour ce qui est de demain vendredi, ben là, il fera chaud. Ensoleillé maximum de 21, samedi ensoleillé maximum de 24, dimanche ensoleillé maximum de 28 et lundi à plus long terme ensoleillé avec un maximum de 22 degrés. Donc 4 beaux jours d'ensoleillement, ça va faire du bien pour le système mettez de la crème. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée et l'eau s'en vient dans les prochaines minutes. Et demain, ben, j'aurai le plaisir pour la dernière journée de la semaine d'être avec vous à partir d'11h30 avec nul autre que Élodie ainsi que Maxime. Salutations, bye bye, merci.
Marceau, le soir.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on veut que vous profitiez en grand de l'été qui approche. On peut vous faire voir le ciel en grand à travers un toit ouvrant conçu sur mesure pour votre Vaux. On agrandit votre Volkswagen avec des supports pour les vélos, les canots ou les kayaks. On vous permet de profiter des grands espaces en tirant une roulotte ou un bateau. Ou encore, on pose des pellicules anti-UV sur vos vitres pour rendre vos déplacements grandement confortables. Même les plus petits accessoires chez Volkswagen Saint-Nicolas feront une grande différence dans vos plaisirs d'été.
Jusqu'au 11 juin, chez Cora, le menu enfant est à 1 $. Et en plus, Cora donne ce dollar au club des petits déjeuners.
Attendez, attendez. Vous pouvez répéter?
Oui, bien sûr. Jusqu'au 11 juin, chez Cora, le menu enfant est à 1 $ et...
1 $?
Oui. Détail en restaurant.
Pour vos besoins en chauffage et climatisation, profitez des meilleurs rabais chez Enviro-Confort. De l'installation de votre thermopompe murale jusqu'à la conversion complète de votre système au mazout, faites appel au choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation de Lévis. Enviro-Confort.com.
En mai, méga promo Perfect Stop chez Pièces d'Auto Économique. Jusqu'à 20% de rabais, profitez-en, c'est une fois par année. Obtenez aussi 25% de rabais sur les essuie-glaces Rain-X. Pièces d'Auto Économique, 8 magasins, 1 site transactionnel. Cadeau à chaque commande au pièceéconomique.com.
Boulevard 102 dans votre char. Québec, Sainte-Catherine, Saint-Og, en dessous du viaduc sur Duplessis, Lévis, Laurier Station. Plus loin que ça, Boulevard 102, l'application.
Boulevard 102.1.
Clinique Proderm. Vos soins médico-esthétiques personnalisés.
Dites adieu à vos poignées d'amour, vergetures et relâchements. Obtenez la cure de hot sculpting au Fotona à 50% de rabais.
Demandez votre consultation à Lévis, Saint-Georges et cliniqueproderm.com.
C'est pas pour rien qu'Abbas est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abbas, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. AbbasExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Lorsque vous tournez la clé de votre voiture neuve de Paquette Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan, vous ne faites pas que partir la voiture, vous démarrez l'aventure. Et quelles belles aventures vous vivrez en profitant des offres avantageuses sur la location 24 mois des Sentra, Kicks et Qashqai. Et si pour vous l'aventure implique bateau, quatre roues ou roulotte, optez pour un Pathfinder ou un Frontier. Ça tire jusqu'à 6200 livres. Tous ces modèles sont en inventaire chez Paquette Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan.
Bonsoir, Québec, à la concierge.
C'est bien connu, Québec Rock City.
Love you, love you, love you.
On est une ville de rock. Boulevard 102, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.
Boulevard
102. Boulevard 102. Votre partner de show.
3, 2, 1.
BLVD 102. Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Hey, vraiment une plus belle journée que ce qu'on nous annonçait en début de semaine. Moi, je m'attendais à une journée un peu grise, à l'image de la journée d'hier. Et finalement, c'est sous le soleil qu'on s'est réveillé ce matin. Il s'est resté pas mal comme ça pour toute la journée, avec un maximum qui a été atteint à 17 degrés. Là, ça commence à se refroidir un petit peu. Le minimum est à 2 pour cette nuit, mais voyons voir ce qui nous attend. Puis je commence le show avec ça parce que je suis comme vraiment contente puis enthousiaste. Demain, vendredi, du soleil 21, plein soleil samedi et dimanche avec des maximums, samedi à 24 et dimanche à 28 degrés. Et je vois un 30 degrés Celsius la semaine prochaine. 30 pour la journée de mardi. Hein, fuck le solstice, l'été, c'est arrivé. Fiez-vous pas à ce que les scientifiques disent. On s'en va écouter un bon vieux succès des années 90. Ozzy Osbourne a co-écrit cette chanson avec Lemmy Kilmister et Zakk Wylde. Des légendes du rock et du métal, mesdames et messieurs. Voici Mama's Coming Home au 102.1. Bienvenue dans le rappel d'Elo avec Elodie Derry pour la prochaine heure.
Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Found and turned around by the fire in your eyes.
102.1.
She's
sans rock, Dello sans peu.
Dairy Queen vous accompagne avec 102 minutes de rock sans pub.